nous avons eu à cœur pour les tables rondes de mélanger les genres. C'est-à-dire que, et c'est aussi le cas dans, sur cette table ronde, nous avons mélangé un essai, une biographie et un roman graphique. Et en général, c'est des rencontres comme ça qui se croisent et qui permettent à chacun d'apporter un regard sur l'écriture. Mais finalement, c'est un regard littéraire, quoi qu'il en soit, autour des mots.
Bonsoir. Je remercierai évidemment Diwan Lorraine, le festival, tous les partenaires qui permettent cette rencontre et ce week-end, les organisateurs et surtout les directrices littéraires qui font effectivement un choix judicieux de rencontre pour vous amener à découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles histoires. Nous avons un thème peut-être un peu sérieux pour la fin de la journée, mais je sais le talent de ceux qui m'accompagnent et qui vont ouvrir des lectures, des mondes différents. Parce que trois récits ici qui vont dire trois lectures, trois histoires du monde, qui vont dire est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on réécrit l'histoire, comment on raconte les histoires. Annick, bonsoir, tu viens de Yaoundé, tu es née au Cameroun et tu as vécu en Centrafrique et puis tu es venue à Paris et tu as eu la chance de réaliser quelque chose qui te tenait à cœur, la bande dessinée.
Oui, tout à fait, bonsoir, merci pour l'invitation.
Mohamed, tu nous viens, juste voilà, je vous présente, tu nous viens du Maroc et ton parcours est terriblement touchant puisque c'est l'histoire d'un homme, d'un enfant, je dirais, qui très jeune, prend conscience du monde qui l'entoure, de la nécessité de s'engager. Et donc, vous allez avoir une vie terriblement amputée d'une grande liberté, puisque vous passez 18 ans de votre vie en prison pour raconter, pour tenter de vouloir qu'existe une autre histoire du Maroc. Et puis Sophie, je ne sais pas si je vous présente parce que j'ai l'impression que tout le monde dit « je vous connais ». J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours comme moi. Et Sophie, vous êtes une historienne qui, par votre travail éclairé, remontez le temps, étudiez les grandes questions depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui pour dire un monde qui n'est pas, comme vous l'avez dit dans votre sous-titre, forcément un monde éclairé, mais un monde qui serait devenu comme une imposture. Donc quand j'ai lu vos trois ouvrages, je me suis dit, j'ai une question, parce que des fois on n'ouvre plus les dictionnaires, qu'est-ce que c'est que ce mot histoire? Et je suis allée chercher la définition du mot histoire. Histoire, on trouve connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire. J'ai envie de vous demander, Sophie, c'est quoi votre histoire pour vous, l'histoire pour vous?
C'est très intéressant. Merci d'abord à tout le monde d'être là et je suis contente d'être avec vous, de partager cette table ronde. C'est ce qui est très intéressant dans la définition que vous venez de donner. Je ne sais pas dans quel dictionnaire vous l'avez trouvé, mais c'est digne d'être raconté. Toute la question est de savoir qui juge cet événement digne d'être raconté. Donc c'est à partir de là, effectivement, vous et moi peut-être ne jugera pas que tel événement, nous n'aurons pas la même opinion sur tel ou tel événement. Donc, et c'est pourquoi j'avais un peu tiqué sur le titre, peut-on réécrire l'histoire? Non, le vrai titre, à mon sens, c'est peut-on écrire l'histoire? Peut-on l'écrire? En fait, ce que nous avons à notre disposition, je ne parle pas nous historiens, nous travaillons sur de la documentation primaire, secondaire, tertiaire, etc. Mais ce que nous, en tant que lecteurs, en tant que public, en tant qu'élèves, en tant que... nous avons essentiellement à notre disposition des récits nationaux, qui parfois sont même des romans nationaux. Voilà. Et donc, le roman national, qui est inhérent, en fait, à toute construction nationale. Toute nation ou groupement qui se veut former une nation va écrire le roman de son passé, de son présent, etc. Et évidemment, ce roman va osciller selon les périodes, selon les acteurs, évidemment, et selon les dirigeants de ces périodes. Je vous donne un exemple parfaitement français. Il est évident que on apprend à l'école, bon, ça a un petit peu évolué depuis, mais enfin pendant près de 2 siècles, le roman national édifié par Jules Ferry. Mais c'est un pur roman national, bien évidemment, où il y a des histoires. Alors, il y a toujours, évidemment, dans un roman national, ça s'accroche, ça s'agrippe à quelques réalités. Mais enfin, le reste, il y a quand même des inventions pures dans le roman national qui a été enseigné aux petits Français pendant de très nombreuses décennies. Pourquoi ? Parce que ça sert à créer de l'unité. En fait, l'histoire, c'est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines. Et l'histoire, c'est la discipline la plus instrumentalisée des sciences humaines. Et donc, il faut que l'histoire serve à quelque chose. Soit serve à construire de la nation, selon, évidemment, l'idée que se font les groupes dirigeants de la nation en question, bien entendu. Ou cela peut servir à... Donc, c'est la raison pour laquelle... les historiens ont pour, je n'aime pas le terme de mission parce que ça fait un peu divin, c'est ridicule, ont pour tâche, pour travail, voilà, pour travail d'essayer d'écrire l'histoire. Maintenant, il y a évidemment plusieurs catégories d'historiens. Vous avez des historiens qui sont les intellectuels organiques de tel ou tel roman national, qui ont contribué, bien entendu, à l'édification du roman national. Je reprends l'exemple français, les historiens de la Troisième République, par exemple, qui ont construit le roman républicain français. Vous avez les historiens, si on prend l'histoire de la colonisation, évidemment, vous avez les historiens coloniaux qui ont apporté de l'histoire à la construction du roman colonial et à la construction de la supériorité de la civilisation du colonisateur sur le colonisé. On peut donner plein de noms. Il y a une bibliographie absolument qui pourrait remplir des bibliothèques. Et puis après, il y a le roman des luttes de libération nationale. Mais c'est également un roman. C'est également parce que ça dépend par qui il est écrit. Effectivement, s'il est écrit par les groupes dirigeants qui ont dirigé les luttes de libération nationale, eh bien, ils vont écrire un roman à leur propre gloire, bien sûr. Et puis, il y a, par-ci, par-là, des essais de déconstruction, voilà, qui sont les travaux, il y en a eu, il y a dans tous les pays, il y a des écoles historiques qui essayent de retrouver l'histoire. Donc, en fait... La question, moi, que je me pose, c'est peut-on écrire l'histoire ? Peut-on se débarrasser de cette chape idéologique qui structure les récits que reçoivent les auditeurs, les lecteurs, etc., pour, évidemment, faire une histoire qui a un rapport un peu plus précis avec la réalité ?
Merci beaucoup pour cette entrée en matière. C'est remarquable. Et justement, moi, c'était... Ce que je voulais vous poser comme préambule, peut-être, c'était est-ce que vous pouvez dire que vous, à votre manière, vous avez écrit justement l'histoire ? On peut peut-être demander à Annick, qui est entrée par la petite porte, puisqu'il s'agit d'une enquête autour d'une famille, de son père, qui va vous propulser finalement dans l'histoire d'un pays.
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur le roman national et la charge idéologique du roman national, dans le cas du Cameroun, puisque mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a été abandonnée par son père et qui veut se créer et qui veut comprendre pourquoi son père l'a abandonnée. Et en fait, en perçant le secret familial, ce secret-là, lié à l'identité de son père, elle s'inscrit dans une démarche où elle va contre le récit et contre le roman national du Cameroun, qui est un roman national porté par une décolonisation inachevée. Au Cameroun, contrairement à l'Algérie, ceux qui ont lutté pour l'indépendance ne sont pas ceux qui se sont retrouvés à la tête du Cameroun. Donc mon héroïne, moi et mon héroïne, elle va à contre-courant de ce roman national d'une décolonisation inachevée. Et c'est un peu l'histoire des... C'est, je crois que c'est Chinois Achebe qui dit... Que c'est, en fait, c'est l'histoire des, entre le lion et les chasseurs. En fait, au Cameroun, ce sont les chasseurs qui ont écrit le roman national du Cameroun. Et là, donc, ce sont les lions, la lionne, qui essayent d'aller à contre-courant de ça. Et en fait, pourquoi c'est important d'aller à contre-courant de ce roman national ? Parce que une chape de plomb a régné pendant des décennies et des décennies sur cet épisode historique du Cameroun, vraiment marqué par un secret lourd, un secret extrêmement lourd. Et la génération de mon père, qui est décédé en 2020, qui est une génération qui a connu cet épisode historique du Cameroun, a été terrorisée, a été traumatisée, a eu beaucoup de mal en fait à transmettre cette histoire à moi qui appartiens à une génération plutôt des années 80. Et souvent en fait dans les contre-récits de certains romans nationaux, quand on va à contre-courant, ça passe par une nouvelle génération. Par une nouvelle génération, donc là en l'occurrence de
Camerounais
qui s'interroge. Voilà.
Oui, merci. Alors, si j'ai bien compris, en fait, parce que bon, il se trouve que j'ai vécu au Cameroun quelques années, donc je connais.
Oui.
Donc, en fait, la contre-histoire que vous, à travers l'histoire de votre père, c'est l'histoire de l'UPC.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour le public,
c'est ça.
Ah, oui. En fait, effectivement, il y a eu un mouvement de libération nationale au Cameroun extrêmement important, qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui a été réprimée de façon féroce par les autorités coloniales, par la France. D'abord en Pays Bassa, puis en Pays Bamileke.
C'est ça.
Bien sûr.
C'est ça.
Et en fait, sont arrivés à l'indépendance. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, a été choisi par le colonisateur. En fait. Voilà. Et que donc, effectivement, vous avez raison. Ça, c'est très important. Et juste avant que Mohamed parle, pour nous, les historiens, vos histoires sont extrêmement importantes parce qu'elles nous aident à écrire l'histoire, justement, vos témoignages personnels, les histoires, même si elles sont romancées, comme vous avez pu le faire, c'est un matériau pour nous qui est important. Et d'ailleurs, bon, il y a eu heureusement un bouquin qui est le Cameroun.
Tout à fait.
Qui est un bouquin extrêmement important, qui a remis à l'endroit un peu l'histoire du Cameroun, mais avec des témoignages comme les vôtres aussi.
Oui, tout à fait. Non, je vous laisse, oui. Oui, c'est ça. Vous avez un livre qui a été publié il y a environ une dizaine d'années.
C'est
oui, c'est ça. Cameroun, une guerre cachée aux origines de la décolonisation. Enfin, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, avec un cas, tout à fait, dont un des co-auteurs écrit la postface de mon livre, qui reste toujours d'actualité, parce que juste pour l'information, au Cameroun, il y a quelques mois, vous avez un intellectuel camerounais à la télé qui a déclaré que les leaders de l'UPC qui ont lutté pour l'indépendance au Cameroun étaient des terroristes. Donc en fait, on est toujours dans une propagande
de réécrire
contre-révolutionnaire.
Voilà.
Voilà, de réécrire l'histoire. Donc un livre comme ça, je ne suis pas la seule. Hein. Je l'ai fait sous roman graphique, mais il y a d'autres témoignages qui sont nécessaires.
Non, un peu pour aller dans le même sens là. Dire tout simplement que la lecture des événements de l'histoire ne peut être que contradictoire, parce que les intérêts sont contradictoires. Par exemple, venant du Maroc, nous avons vécu durant 40 ans un essai...
Mohamed parle.
C'est bon. Nous avons vécu durant ces 40 dernières années, les années de dictature, et même après, une lecture où il y aurait toujours eu un pacte national entre le peuple et le pouvoir monarchique. Donc tous ceux qui sortiraient de ce pacte national qui a été construit avant la colonisation. Attention, j'ai été en présence d'historiens où un jeune, par exemple, a osé dire tout simplement que peut-être durant la période coloniale, la monarchie s'était un peu dissociée du peuple parce que le peuple s'opposait à la colonisation. alors que la monarchie, Moulay Hafed et Moulay Abdelaziz, c'était totalement inscrit. Et il y a eu vraiment, dans toute la salle, jamais du tout, jamais, il n'y a eu une séparation entre les intérêts de la monarchie et les intérêts du peuple. In fine, l'histoire et cet espace contradictoire, cet espace de lecture contradictoire, vu que les intérêts, ce sont des intérêts réellement qui s'entrechoquent. Nous vivons, nous avons vécu, nous vivons toujours l'histoire du Sahara. Nous vivons cette histoire où il y a deux interprétations de l'histoire qui sont différentes. En Algérie, nous vivons cette interprétation des apports aussi de ce qu'a été la colonie. Nous vivons aujourd'hui un drame à l'échelle mondiale sur une interprétation d'un drame énorme qui était la Shoah. Mais soit c'est une page qui est tournée dans l'histoire, ou bien une page qui continue à être ouverte pour interpréter leur présent. Et tout le sionisme se construit sur une interprétation de la Shoah comme culmination d'une, etc., etc. Donc normalement, l'histoire, il faut écrire l'histoire avec des S, beaucoup d'S, parce que l'interprétation de l'histoire... Dans mon livre, j'ai essayé justement de donner...
Oui, tout à fait.
Je démarre par une chronologie des événements historiques, une lecture différente de ce qu'a été l'histoire du Maroc.
Et vous l'avez payé.
Oui.
Et vous l'avez payé.
Oui, oui, absolument.
Moi, je voudrais revenir sur deux petites choses, parce que ça fait partie de la déconstruction. Et vous avez dit que... Effectivement, c'est assez récent dans ma trajectoire que c'est à partir du moment où j'ai écrit l'histoire de la Tunisie que j'ai fait une histoire de la longue durée. Et l'histoire de la longue durée, c'est très intéressant aussi, puisqu'au départ, moi, je suis quelqu'un de l'histoire contemporaine, enfin, à partir du milieu du 19e. Là, je commence à Carthage.
Vous remontez les siècles.
J'ai remonté les millénaires, même. Donc, c'est pas... Mais la question, et là aussi, je crois que toute déconstruction passe aussi par une déconstruction du langage. Le langage, c'est l'outil. C'est l'outil de la domination aussi, le langage. Qu'est-ce que c'est que le peuple ? On dit le peuple était contre la monarchie. Alors évidemment, il y a un roman de la monarchie, incontestablement, qui d'ailleurs a été partiellement construit par le colonisateur, c'est-à-dire par Lyoté. Lyoté est un des constructeurs de la légitimation de la monarchie marocaine. Bon, et ça, tous les historiens sérieux vous le diront, bien sûr. Donc, c'est plus compliqué que colonial, anticolonial. C'est toujours plus compliqué. Bon, ensuite, le peuple. Il y a des catégories du peuple, de la population marocaine. Moi, je parle en général très... Je n'aime pas parler du peuple parce que je pense que c'est un construit politique, le peuple. C'est un construit. Il y a des classes populaires. Ça, c'est certain. Et il y a la division, je crois que le clivage qui restera le plus longtemps dans n'importe quelle société, c'est le clivage de classe. Beaucoup plus que les clivages ethniques, religieux, etc., lesquels existent et sont effectivement des facteurs de division. Donc le peuple. Il y a eu, vous savez très bien qu'une partie des élites également, au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, a été... tout à fait complice de l'entreprise coloniale. Si on reprend le Cameroun, les Lamido du Nord Cameroun, évidemment, ont été complices de l'entreprise coloniale qui leur a fichu une paix royale. Parce que quand on regarde les entreprises coloniales, on s'aperçoit qu'il y a des alliances objectives entre un certain nombre d'élites qui souvent sont les élites traditionnelles et les élites religieuses. Dans le cas du Cameroun, les sultanats du Nord. Et que, en gros, le partage des tâches est la chose suivante. Le colonisateur, c'est l'économie, c'est la mise sous tutelle du pays, c'est l'administration, la société, on vous la laisse. On vous la laisse. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si jamais aucun colonisateur, qu'il soit anglais, français, belge ou qui voudrait, n'a agi sur la société. C'est je prends tout et je vous laisse. La société. Donc, c'est pour ça que le mot peuple. Alors, sur la Shoah, c'est très intéressant. Moi, je n'emploie jamais le terme de Shoah, puisque il y a un terme français qui s'appelle le génocide. Donc, voilà. J'emploie. Bon, le terme de Shoah ne me dérange pas. Ça veut dire la catastrophe en hébreu. Donc, effectivement, il s'est agi d'une catastrophe. Juste, effectivement, aujourd'hui, cette tragédie a été le génocide est instrumentalisé. Mais le sionisme a commencé avant. Alors, n'oublions pas que le sionisme est un nationalisme juif qui s'est construit dans... Pourquoi je parle de ça ? Parce que le roman national israélien est emblématique de la construction d'un roman national. C'est vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire revenir prendre la Bible pour un cadastre, prendre la Bible pour un code foncier. Voilà. En gros, le roman sioniste prend la Bible pour un code foncier, pour une réalité historique. Alors que la Bible, comme toutes les grandes mythologies, est une grande, un grand récit mythologique. Voilà, c'est un très beau récit mythologique ou c'est un moins beau récit mythologique. Je dis que ça dépend si on l'aime ou si on l'aime pas. Hein, après tout, on peut avoir des... Voilà.
Pardon, justement, une aparté pour dire l'histoire. L'histoire ou mythe ? On est construit.
L'histoire n'est pas... Il faut se détacher du mythe. Le mythe, c'est très beau. Moi, j'adore les mythes. Je veux dire, c'est magnifique. Voilà, qu'on prenne Prométhée, qu'on prenne Abraham, qui voudrait, mais enfin, personne ne nous a prouvé qu'Abraham a existé et que un dieu a supposé qu'il existe. Je pense que l'Orient est l'inventeur du monothéisme. Je ne suis pas sûr que ça soit sa plus belle invention. Mais enfin, on peut passer là-dessus. Mais donc, voilà, ça c'est emblématique le roman national israélien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va puiser sa source dans une grande mythologie et qui fait de cette mythologie une réalité historique. Voilà.
Et justement. La suite de l'histoire, si je puis dire, la suite de l'histoire. Il y a eu tous ces savoirs engrangés, toutes les lectures qui ont donné une ligne d'histoire quand même à travers le temps, parce que c'est ça aussi. À chaque époque, chacun réécrit son histoire. Mais
ce que je veux dire par là, moi, c'est...
Oui, mais voilà. Mais en fait, l'histoire normalement a un socle auquel les aventures s'agrègent au fil des siècles, au fil des années. Et normalement devrait constituer un panel très riche de l'histoire de l'humanité. Or, c'est pas du tout ça qui se passe.
Je vous donne un exemple. Ouais. Aujourd'hui vient de sortir un livre savant, collectif, gros comme ça, qui est le Mohammed des historiens, pour le prophète de l'islam. Hein, comme il y a eu... qui est un bouquin absolument passionnant, bon, qui fait 3000 pages, mais le Coran des historiens, hein, c'est un livre qui remet, enfin, que les historiens lisent l'Arabie, la péninsule arabique au moment de la révélation mohammedienne. C'est passionnant. Un des directeurs de ce livre collectif, qui est Mohamed Amir Mouazzi, qui avait aussi dirigé le Coran des historiens, dit ce qui est, sur la vie du prophète Mohammed, ce qui est certain, ce qui est attesté historiquement, ça tient en 3 pages. Voilà. Donc, quand on voit les sirahs du prophète qui prennent des centaines et des centaines et des centaines, dit ce qui est attesté, ce qui est certain, c'est 3 pages. Voilà. Alors, ce que je veux dire, et je termine par là, c'est que donc, toute histoire est un récit. On a un fait, effectivement. On peut dire la bataille de Cannes, d'Hannibal, la bataille d'Azincourt. Mais c'est tout, on a le fait. Mais il nous est rapporté par quelqu'un qui l'a raconté. Nous n'avons pas assisté à cette bataille. Donc voilà. Et donc, tout nous est rapporté par quelqu'un qui l'a raconté. Et je termine par une blague. Il y a un Français qui va à Londres, hein, qui se balade, qui fait du tourisme, et qui dit, je ne comprends pas, pourquoi les Anglais donnent des noms de défaites à toutes leurs avenues et toutes leurs places. Voilà.
Et justement, voilà, j'aimerais bien aussi, Annick et Mohamed, que vous apportiez votre éclairage sur votre action d'écrire pour écrire votre histoire ou justement écrire l'histoire. Comment on participe finalement à la grande histoire ? Est-ce que c'était une nécessité personnelle, familiale ou politique pour ton cas ?
Alors pour moi, c'est les trois à la fois, puisque le point de départ, mon histoire, c'est vraiment une histoire familiale. C'est une femme qui a été abandonnée, donc ça part d'une histoire d'abandon, voilà, qui revoit son père des décennies après, et qui, forcément, pour se reconstruire et aller de l'avant, a besoin de régler un certain nombre de questions. Et en ce sens, je trouve que c'est universel, cette manière de rentrer dans l'histoire, puisque au-delà de moi et de mon histoire avec mon père, en fait, on se pose tous des questions sur qui sont nos parents. Voilà, qui sont nos pères, qui sont nos mères, qui sont nos grands-parents.
Mais c'était donc nécessaire de le rendre public, d'afficher cette histoire au grand jour. Il y avait une nécessité historique ou une nécessité...
C'était nécessaire de le rendre public, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a eu une chape de plomb qui a régné, un secret extrêmement lourd, qui a régné sur la manière dont le Cameroun a été décolonisé. Et donc... Il y a aussi une des conséquences de cette chape de plomb. En 2009, vous avez François Fillon, qui était au Cameroun. Et lors d'une conférence de presse, il a été interrogé par des journalistes qui lui demandaient s'il admettait que, durant la décolonisation du Cameroun, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque les événements, qu'on n'appelait pas une guerre. Voilà, et donc des actions de l'armée française au Cameroun durant sa décolonisation. Et en fait, il a nié que l'armée française avait commis des massacres et une guerre durant la décolonisation du Cameroun. Donc il y a eu des dénis, il y a eu des décennies et des décennies de dénis. Et après, François Fillon, François Hollande, qui était président à l'époque, avait dit qu'il allait ouvrir des archives, que des archives qui étaient secret défense allaient être ouvertes. Donc il y a un enjeu mémoriel derrière. Donc je ne pouvais pas simplement me contenter de raconter ma petite histoire avec mon père. Je l'ai fait dans un cadre qui dépasse mon histoire. Un cadre d'enjeu mémoriel. Et en 2022 ou en 2023, je ne sais plus la date, quelques années après que je commence ce projet dans mon coin, parce que c'est un projet que j'ai commencé en 2020, Emmanuel Macron a nommé une commission d'historiens, comme il a fait pour l'Algérie aussi, mixte d'historiens français et camerounais, pour faire la lumière sur ce qui s'était passé. Donc voilà, cette démarche que j'ai faite, même si c'est en parallèle, voilà, je l'ai faite parce qu'elle s'inscrit dans une nécessité, un enjeu aujourd'hui mémorial de reconnaissance, de réparation, de cette histoire partagée entre la France et le Cameroun. Et donc c'est pour ça que je suis... Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rendre public, de publier l'histoire de ma famille... Et donc de résoudre un problème personnel d'une femme qui a besoin de pardonner son père, de l'avoir abandonné, pour raconter celle du Cameroun. Mmh. Parce qu'il y avait une raison. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, tout à fait. Très bien.
Un enjeu mémoriel, c'est un enjeu historique aussi. Mmh. C'est un enjeu, voilà, ça ne convoque pas seulement des mémoires, ça convoque l'histoire en tant que telle, c'est-à-dire... Mmh. Quels ont été, dans ce pays particulièrement qui est le vôtre, les crimes de la colonisation et les crimes qui ont accompagné la décolonisation.
C'est à chaque fois...
Un enjeu de justice, voilà. Histoire et justice.
Ce sont des puzzles, comme un puzzle qui se reconstitue et à chaque morceau que l'on met, Mohamed.
Oui, je dirais réellement, à vous écouter, je me sens plongé dans le silence.
Oui,
c'est
justement.
Tellement intéressant. Et puis dire des choses à un certain moment. Et je pense que ça m'a amené, après 30 ans de ma libération, ça m'a amené à sentir qu'il y avait un profond malaise qui s'installait dans le pays. Le malaise, c'est qu'on essayait de tourner la page d'une histoire et que les élites, plus ou moins, s'accommodaient à la nouvelle donne de l'histoire marocaine. Et c'est là où mon livre est un cri pour dire, écoutez, on ne peut pas passer tourner la page sans dire qui sont les criminels de cette histoire elle-même, sans connaître qui sont les criminels de Tasmamar. Est-ce qu'on a été dans des années de plomb ou est-ce qu'on a été sous une dictature? Parce que le nouveau régime a essayé de s'installer, on est toujours dans cette question d'interprétation de l'histoire, a essayé de s'installer ou de donner comme qualificatif à 40 années d'une dictature sanguinaire, années de plomb. en libérant ceux qui étaient détenus, j'ai été parmi les derniers libérés avec Abraham Serfati, en libérant ceux qui restaient en prison. Donc on avait tourné la page de ces années malheureuses de despotisme et de crime. Et puis nous entamions une nouvelle phase, celle de la nouvelle démocratie, de la nouvelle donne. Et moi, après 30 ans, j'ai essayé de dire tout simplement, voilà, nous étions sous une dictature et le passage de cette dictature à quelque chose de nouveau nécessite qu'on analyse cette dictature.
De ne pas oublier une page de l'histoire.
De ne pas oublier une page de l'histoire, mais pas uniquement d'oublier une page de l'histoire, mais de parler du système politique qui a dominé cette partie, que cette période. Et c'était un système dictatorial, sans séparation de pouvoir, avec un pouvoir personnel absolu du roi, qu'il s'appelle Mohamed VI ou qu'il s'appelle Hassan II. C'est-à-dire qu'il y avait une continuité du système politique. Et c'est là où mon livre a été reçu. Au premier, par un certain, les personnes regardaient et se disaient comment ce sérifi reste-t-il dans le pays ? Parce que je disais plus ou moins que le système aujourd'hui qui sévissait dans le pays, c'est un système qui n'avait pas dépassé le système de la dictature et que nous pouvions facilement retomber dans l'ancien système. Et ça a été, c'est pour cela que je vous écoutais, mais vraiment avec un grand silence, mais aussi en replongeant dans cette vie, j'ai essayé de reprendre quelques thèmes fondamentaux. Je démarre le livre par une chronologie des événements majeurs du pays, une lecture d'histoires différentes, où je parle de l'enlèvement de Mehdi Moubarka, des fusillés, de Tazmamart et autres. Et puis, sur mon histoire personnelle de torture, ce n'était pas mon histoire personnelle qui intéresse, mais c'est un peu cet instrument pour pouvoir repousser toute opposition qu'était l'assassinat, les tortures ou les prisons. De là, j'ai passé toutes les années de prison pour vous dire que c'était pour exprimer mon point de vue, pour dire ce que je pensais d'un système qui était inique et despotique. Je n'ai pas 18 ans, je n'ai jamais de ma vie cru aux armes,
bien sûr,
à l'utilisation des armes pour... Allez-y, oui.
Oui, non, mais c'est, voilà, vous êtes tous les trois... à avoir eu cette capacité à raconter une histoire, ou votre histoire, ou Sophie plus largement, les histoires depuis les siècles. Et ces histoires-là, si vous ne les écriviez pas, elles n'existeraient pas. Et donc...
Voilà pourquoi l'histoire n'est que ce qu'on en écrit.
Voilà, tout à fait. Et donc, l'importance aujourd'hui de se dire, est-ce qu'il existe, comme je crois Mohamed, vous le disiez tout à l'heure, des histoires ? Est-ce qu'on doit toujours se confronter à l'histoire dite nationale ou qu'on pourrait appeler l'histoire de pouvoir et d'austérité ? Ou est-ce qu'il faut du coup un engagement particulier pour oser dire une autre histoire ou d'autres histoires et les faire connaître au plus grand nombre ? Entre le silence, comme vous disiez tout de suite, ou au contraire la parole qui doit être écrite, qui doit être transmise. Aujourd'hui, ça semble être d'autant plus important.
Non, mais je crois que les paroles sont diverses. Il n'y a pas une parole. Non. Toutes ces paroles sont importantes. Je veux dire, voilà. Cela ne veut pas dire... L'histoire ne peut pas être écrite par une seule... elle est écrite grâce à des témoignages... Elle est écrite grâce à des analyses, elle est écrite grâce à des archives. Il ne faut pas oublier le rôle des archives, quelles qu'elles soient, c'est fondamental, les archives. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans beaucoup de pays, quand il y a une dictature, on détruit les archives. C'est quand même pas anodin de détruire des archives. Hein. C'est très important. Mais là, je voudrais revenir sur le cas marocain, parce que le cas marocain est un exemple, parmi d'autres, mais un très bel exemple de construction d'un roman national... légitimiste, je pourrais dire. C'est-à-dire, dans le roman national légitimiste, si on prend l'époque de l'indépendance du Maroc, 1956. 1956, c'était le roi Mohamed V, et, bon, lequel est mort jeune, hein, en 1961, et à l'époque, toute la gauche marocaine était républicaine. Elle était républicaine, la gauche marocaine, et en fait, le discours de la gauche marocaine, c'était « on laisse Mohamed VI » parce qu'il a été un acteur de la lutte de libération nationale. Nous n'allons pas le détrôner. Et quand il sera mort, ça sera la République. Bon. Et donc, il meurt plus tôt que prévu, si je puis dire, et son fils Hassan II prend le pouvoir, pour le plus grand malheur du Maroc. Et donc, à partir de là, il y a eu la construction d'un discours de légitimation qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe, à part quelques individus, n'importe quel membre de la gauche marocaine, il est monarchiste. Voilà. C'est-à-dire que tout le pays est passé, est devenu monarchiste. C'est-à-dire qu'il y a eu... Et donc, c'est un exemple pour moi de construction réussie du roman national. Le Maroc, c'est réussi. Cet appareillage de légitimation est parfaitement réussi. Après, bon, après, vous avez des épisodes. C'est-à-dire que vous avez les années de plomb de Hassan II, effectivement, qui était un homme cruel. La différence, c'est que Mohamed VI, je pense, a continué à construire le même roman avec des outils différents. C'est-à-dire que c'est certains despotes, il est moins cruel que son père. Voilà, hein, il a enlevé la composante cruauté de son règne. Moi, Hassan II, ça me fait souvent penser à Louis XI, qui mettait ses prisonniers dans des cages. Hein, c'est un peu Tazmamart, c'était un peu ça. Et donc voilà. Et donc il continue. C'est plus cool. Voilà, voilà avec M6. Mais c'est la même construction. Et donc c'est pourquoi je dis il y a des romans nationaux qui réussissent et qui arrivent à modeler. Pourquoi c'est tellement important? J'ai fini. Parce que ça modèle la politique. C'est pas neutre. La construction d'un roman national, c'est jamais neutre. Ça modèle la politique. Je prends l'exemple du Maroc, on parlait d'Israël tout à l'heure. Ça modèle cette légitimation de l'occupation, modèle l'habitus, la psyché collective d'un peuple. Voilà, c'est important. Pendant le roman national de Jules Ferry, un modelé la psyché de générations de petits Français et de petites Françaises. Et donc, c'est un outil politique qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il est dangereux.
Je voulais tout simplement rebondir sur cette idée de construction d'un discours. Ce n'est pas uniquement cette construction d'un discours, mais... Oh, oui, absolument. La construction d'un discours se passe aussi par la violence, se construit sur la violence, sur la peur. Et c'est très important. Aujourd'hui, je parlais un instant à mon enfant qui est ici parmi nous, et il me disait, il est en France il y a quelques années, et ce qu'il retient du pays, c'est cette peur qui est omniprésente. Et c'est très important. Et ce discours se tient, se construit sur la peur. Ce petit livre que j'ai écrit, il a fait peur parce que j'ai perdu la peur dans ce livre. J'ai dit dans ce livre que j'étais républicain, que j'étais communiste et que j'étais athée. Et c'est écrit noir sur blanc. Ils sont... Ah, mon Dieu, que c'est mal vu. Les trois choses, d'ailleurs. Les trois choses. Ils m'ont dit, tu enlèves athée, tu laisses républicain et communiste. Et puis, ils ont commencé à négocier. Donc, ça a été une négociation. Tout simplement, ces trois termes. Disons qu'aujourd'hui, ce discours se construit sur la négation de la liberté de penser, de la liberté d'être différent. Et c'est très important, ça, dans le discours. Le discours marocain s'est construit à travers des années de terreur. Et c'est ça ce qui est important à retenir, pas uniquement dans le développement d'un discours nationaliste, mais ce discours nationaliste s'est construit sur la terreur et sur l'accaparation de toutes les richesses du pays par une clique qui était au pouvoir. Les contradictions, les luttes qu'il y avait dans les années 61, et vous en savez quelque chose, c'était sur des modèles de développement du pays.
Oui, et je voulais ajouter quelque chose que vous avez dit, Mohamed. Dans mon roman graphique, j'ai traduit ce roman national camerounais construit sur la terreur, sur la répression violente d'un mouvement nationaliste. Cette terreur fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes au Cameroun disent... Alors ça, c'est un truc vraiment qui revient au Cameroun, c'est « Ah, moi, je ne fais pas de la politique ». Ah, moi, je veux voir mes enfants grandir. Parce que toute parole subversive, toute parole qui va à l'encontre de la parole gouvernementale est criminalisée et discréditée. Et comment je l'ai traduit dans mon roman graphique ? J'ai utilisé les codes du thriller. Mon héroïne, qui va percer le secret familial, se met en danger. Voilà. Donc, c'est la traduction dans... donc, c'est pas pour rien, donc, du coup, que c'est un thriller. Je l'ai traduit comme ça. Elle cherche quelque chose. Alors, sans spoiler, le livre commence, les cinq premières pages du livre, c'est que vous voyez une femme qui court dans un marché au Cameroun et, parce qu'elle est poursuivie et elle est enlevée et embarquée dans une voiture. Et ensuite, il y a le flashback. Voilà, elle se demande qu'est-ce qu'elle est venue faire au Cameroun et pourquoi elle est... voilà, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans, voilà, dans cette galère. Voilà, et donc sans spoiler, voilà, c'est, vous avez ce, voilà, c'est la traduction dans le livre, dans le scénario.
Et justement, réécrire ou écrire l'histoire, c'est aujourd'hui, plus que jamais peut-être, se mettre en danger. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une liberté d'écrire à peu près sur ce qu'on pourrait vouloir dire de son monde ou d'une histoire qui aurait été tronquée? Le terme imposture, il est dans le sous-titre, parce que effectivement, j'ai beaucoup aimé cet essai qui est d'une densité et qui remet la tête à l'endroit pour nous dire qu'on s'assoit aujourd'hui sur un passé, sur un Occident, un Orient complètement tronqué, et c'est peut-être ce qui fait que la violence est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, en se servant d'une mauvaise histoire, on pourrait dire, ou d'une mauvaise interprétation. Donc vraiment, vos voix sont-elles, elles sont nécessaires, mais sont-elles en danger?
Ça dépend où, quand même. Je veux dire, c'est, il y a quand même, je veux dire, certes, les démocraties occidentales sont des démocraties tout à fait relatives. Il n'y a pas de démocratie absolue. Mais enfin, je veux dire, il est plus facile d'écrire en France qu'au Cameroun. Voilà.
D'ailleurs, en fait, j'allais répondre aussi en disant que c'est un peu facile, d'où je pars, de faire un livre sur la guerre de décolonisation du Cameroun, sachant que plusieurs auteurs de BD ont porté le projet. Plusieurs auteurs de BD vivant au Cameroun ont porté le projet et ne l'ont pas, n'ont pas abouti.
Ah oui.
Parce qu'ils sont...
Donc ça dépend, on ne peut pas.
Voilà, c'est ça.
Les pays ne se ressemblent pas, je veux dire.
Ah, bon, mais disons maintenant que le défi, si vous permettez, le défi est là. Moi j'ai écrit, il y a des maisons d'édition françaises qui ont voulu le publier, mais j'ai tenu à le faire publier au Maroc parce que la lutte, elle est au Maroc. Et que c'est un défi en permanence contre une certaine interprétation de l'histoire, contre aussi une certaine vision du développement du pays. On sait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit il y a un petit moment, que Mohamed VI essaie de continuer dans le même système.
Le renforcement du Marseille.
Voilà, absolument, c'est le même système. Mais dire aussi qu'il y a des marges aussi de liberté qui se développent dans le pays et qu'il s'agit d'exercer et qu'il s'agit d'analyser jusqu'où iraient ces marges. Le fait d'avoir écrit ce livre publié au Maroc, la maison d'édition que je tiens à remercier ici, le Fennec, elle tremblait. Normalement, on prenait le téléphone, on disait, voilà, ils avaient l'ISBN. C'est un livre qui est resté 6 mois avant d'avoir eu l'aval d'être publié au Maroc. Et j'ai reçu, ma femme est ici présente, j'ai reçu 10 d'appels téléphoniques, parle du passé, oublie le présent.
Donc, moi, je voudrais revenir sur, effectivement, d'abord, la différence quand même en certain nombre de pays. Je veux dire, on est plus ou moins libre, même si la démocratie idéale n'existe pas. Mais enfin, maintenant, effectivement, moi, si j'ai écrit ce petit essai que je l'ai appelé une imposture, que c'est une instrument, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'importance du langage. Et que le langage, il construit l'idée. Il construit le langage aussi. C'est quelque chose qui construit du réel. Il faut lire ou relire Orwell. Il faut lire ou relire 1984. Ce qu'il y a de plus fort, de plus extraordinaire dans 1984, c'est justement le langage. Que dit la dictature de 1984 ? La vérité, c'est le mensonge. La guerre, c'est la paix. Donc, voilà, comment. Et quand on regarde tous les discours des dictatures, bon, vous pouvez prendre aujourd'hui la Chine, par exemple, ou la Russie de Poutine, pour prendre les grands. Grande puissance mondiale, il faut étudier le discours de ces dirigeants, qui est un discours qui transforme le mensonge en vérité. C'est ça qui est très... C'est, moi, à mon petit niveau, à mon modeste niveau, c'est ce que j'ai voulu déconstruire. C'est-à-dire, d'où vient cette expression de civilisation judéo-chrétienne? Quelle est la généalogie de sa construction et à quoi sert-elle? Voilà. Donc, parce que une construction... qu'elle soit historique, qu'elle soit idéologique, elle sert toujours à quelque chose. Elle a une fonction politique. Et disons, en prenant cet exemple-là, qui me préoccupait plus que d'autres dans la période présente de mon travail, eh bien, c'est cette déconstruction et c'est de, effectivement, dire, voilà, quelle est sa fonction politique ? Et ça, je crois que pour tout, puisqu'on parlait de récit national ou de roman national, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quelle est la fonction politique du récit en matière historique, j'entends. Ça a toujours une fonction politique, c'est jamais gratuit. Et donc, et vous l'avez très bien montré tous les deux en prenant les exemples de vos pays respectifs. Voilà.
Oui, je voulais rebondir. Quand vous parliez du langage, dans 1984, où en fait le mensonge devient la vérité, c'est la vérité, etc. C'est l'occasion, juste pour moi, de vous expliquer pourquoi mon livre s'appelle « Les enfants du pays ». Durant la guerre de décolonisation, donc la propagande officielle, la propagande de l'armée française et des alliés camerounais, hein, parce qu'il y a toujours des alliances évidemment locales, a collé le terme terroriste, rebelle et assassin à ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et en fait, je suis tombée sur des chants, des slogans entonnés par les résistants, les maquisards, pendant cette période, où ils disaient, eux, comment ils s'appelaient. Voilà, pour répondre à la manière dont on les appelait rebelles, maquisards, assassins. Et j'ai trouvé un des mots, la manière dont ils s'appelaient les enfants du pays. Voilà, donc dans cette volonté de déconstruire et aussi ce langage, le titre m'est venu de cette manière. Voilà.
Merci. Merci, merci à tous les trois. J'ai une autre envie de vous demander au monde, aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, où tous les outils déployés permettent à tout un chacun d'écrire, de dire une histoire ou des histoires, comment peut-on se garantir d'avoir une vérité ou d'avoir une certitude qu'on est sur quelque chose de stable et de non inventé? Bon, je ne parle même pas de l'IA, mais tout un chacun peut raconter l'histoire à sa façon, détourner les propos. Aujourd'hui, ça va très vite. On ne maîtrise plus l'information. Et en tant qu'historienne ou écrivain, on sait le temps qu'il faut pour écrire, penser, dire les bons mots. Aujourd'hui, juste un petit mot sur ce paramètre-là.
D'abord, on ne maîtrise rien du tout. D'abord, c'est la première chose. Et alors, la chose qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est l'information aujourd'hui. Et c'est bien un problème, d'ailleurs. Maintenant, cela dit, tout le monde peut apporter sa pierre. Mais comme n'importe quel métier, historien, c'est un métier comme plombier ou comme électricien. Je veux dire, c'est des outils. Il y a aussi... Alors, ça veut dire que moi, historienne, je vais me servir de ce que vous avez écrit. Je vais me servir de ce que vous avez écrit. Mais bon, je veux dire, c'est un travail... Je veux dire, n'importe qui ne peut pas lire un codex, par exemple. N'importe qui ne peut pas lire une stèle. Ça s'apprend, c'est tout. Donc, il ne faut quand même pas oublier que l'histoire, c'est un métier. Et donc, moi, je dis, il faut faire très attention. N'importe qui n'est pas historien. Mais n'importe qui peut apporter sa pierre et sa contribution au récit historique. Voilà. Mais je crois que c'est très important de tenir compte. Le métier, ça compte. Le métier, ça compte. Je vous dis, on ne sait pas spontanément lire une archive, c'est pas vrai. Je veux dire, on ne sait pas spontanément comparer. C'est-à-dire, l'histoire comparative, elle est extrêmement importante. Je vais prendre votre témoignage, votre livre. Mais même si a priori ma conscience politique me fait être plus proche de vous que d'autres. Mais pour autant, si je fais un travail historique sur la période que vous racontez, je vais prendre d'autres sources. Je ne prendrai pas uniquement la vôtre. Voilà. Ça, c'est parce que sinon, je ne ferai pas mon travail d'historienne. Pareil pour l'histoire de l'UPC. Donc, je termine juste. Donc voilà, ce que je veux dire, il faut faire quand même très attention. Je veux dire, l'histoire, c'est un travail. Donc, on ne peut pas... c'est un travail qui demande une discipline, une étude. Voilà.
Non, je voulais tout simplement dire que ceux qui écrivent aussi s'alimentent de la vision de l'historien. Que ceux qui écrivent confrontent les interprétations différentes des historiens. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation uniquement qui va de l'historien vers le témoignage. Le témoignage se construit à travers des lectures contradictoires et différentes de l'événement que nous voulons raconter. Et c'est très important, cet aller-retour de l'historien vers celui qui fait du témoignage et ainsi de suite, est une relation qui construit une vision. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas dans des professions, disons, différentes, mais on est dans une construction d'une vision qui est contradictoire aussi.
Non, c'est surtout l'histoire, c'est pas une vision, c'est de l'histoire. Non, je ne construis pas une vision, je fais mon métier. Vous pouvez construire une vision. Vous êtes un politique, vous avez quelque chose à transmettre de vos convictions. Ok, c'est bon. Donc vous transmettez dans votre ouvrage, vous transmettez votre expérience et vos convictions. Moi, justement, mon travail d'historienne, c'est de ne pas imposer une vision à celui ou à celle qui va me lire. C'est de dire, voilà les outils dont je dispose, voilà ce que je vous donne pour le plus impartial possible, et faites-en ce que vous voudrez.
Oui, mais l'histoire est au service d'une idéologie, néanmoins. Donc il y a quand même... l'histoire, elle est au service d'une idéologie, on l'a vu. Oui, c'est ça.
Mais dans le choix des événements...
Je prends une source. Il faut lire. Il y a quand même de très grands historiens qui ont écrit des théories de l'histoire. Je pense, et c'est un excellent exemple pour moi, parce qu'il a été à la fois... quelqu'un qui avait des convictions politiques et à la fois un des plus grands historiens de la France du XXe siècle, qui est Marc Bloch. Marc Bloch est mort, fusillé par les Allemands, tout de même. Hein. Il était résistant, oui. Et juif en plus, qui n'arrangeait rien à l'époque, hein, et torturé et fusillé par les Allemands. À part ça, lui était un historien spécialiste du Moyen-Âge, hein, puisque ses deux plus grands livres sont « Les rois thaumaturges » et « La société féodale ». Et son livre, qui est un maître livre pour n'importe quel historien, ça s'appelle « Le métier d'historien ». Le métier d'historien. Et donc, il a toujours, Marc Bloch, et c'est pour ça que je le prends comme exemple, ses convictions n'ont pas, bien entendu, c'est pas un historien d'extrême droite, c'est sûr. Bon, mais je ne pense pas que l'histoire soit forcément au service d'une idéologie. Peut-être je défends mon métier, là. Mais on est marqué... Je reprends le mot des psychanalystes, qui me semble un mot très juste. C'est d'où tu parles. On parle toujours de quelque part. Si je prends mon histoire de la Tunisie, par exemple, il est évident que cette histoire, quelqu'un qui prend les mêmes périodes, etc., qui n'est pas moi, ne l'écrira pas tout à fait de la même façon. Ça, c'est sûr, si vous voulez. Pour autant, nous devons, en faisant notre métier, nous dégager d'une emprise idéologique. Nous avons, bon, voilà, je fais de l'histoire, je suis moi, voilà, et vous êtes vous, voilà, et on n'est pas pareil, et on est parfois un peu pareil. Mais je ne crois pas, se démarquer du roman. Le roman national est toujours idéologique, l'histoire non, heureusement.
Merci. Si vous juste permettez, une petite minute, allez-y. Mohamed.
Non, j'ai une très grande question et qui revient un peu à notre histoire, à notre pays aussi, que depuis le démarrage, la monarchie s'est dotée d'historiens de renommée internationale. Abdelwahed Ben Mansour, dernièrement aussi un grand historien, qui est historien d'une institution ou qui essaie de relire l'histoire de la monarchie. Il fait de l'histoire, ce sont des livres d'histoire qui sont très prisés dans le pays. Donc l'histoire, elle a un parti pris dans les événements eux-mêmes, il y a un parti pris des gens. Je ne pense pas que l'historien, par exemple, je suis uniquement, et vous le connaissez beaucoup mieux que moi, Abdallah Al-Arwi, les différentes phases de Abdallah Al-Arwi dans la description de l'histoire du pays. Et à un certain moment, à la fin de sa vie, l'un des livres, il a écrit une apologie pure et dure du despotisme. Mais je dirais, en s'appuyant sur des faits historiques, il a changé d'une attitude, il était de gauche, et aujourd'hui, il écrit l'apologie de Hassan II et du système de la monarchie. Donc l'histoire est un instrument qui est au service du pouvoir aussi.
Merci Mohamed. Merci beaucoup. En tous les cas, je pensais qu'à la fin, on pourrait peut-être arriver à un accord, mais vous soulevez plein de questions et vous nous donnez envie de nous pencher vers, encore plus sur l'histoire. Oui, voilà. Et on laisse, si quelques-uns parmi vous ont quelques questions pour nos auteurs, on vous laisse la parole. Et autrice, auteur, pardon Sophie, moi je dis auteur, voilà, mais il ne s'entend pas assez mon re. Oui. Donc, si, oui, monsieur, il y a un micro, peut-être.
Bonjour madame. La question que je voulais quand même, que je veux poser, c'est il y a une période de l'histoire marocaine. Qui allait basculer la monarchie, qui allait disparaître, c'est à la révolution de Abdelkrim Khattabi et sans les Français lyotés.
Des questions d'histoire générale. Il y a le Cameroun, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Nous ne sommes pas là pour réécrire ni relire l'histoire du Maroc. Soyons très clairs. Oui. Le sujet, c'est écrire l'histoire.
Voilà. Je voulais un petit peu avoir votre avis sur ce qui serait passé éventuellement, si.
On n'est pas là pour ça.
D'accord, ok.
Ou est-ce que quelqu'un va oser poser une autre question, Sophie ?
Non, mais...
Je peux ne pas répondre ou répondre. Mais réellement, je n'ai pas entendu votre question. Je me sens réellement impliqué. Je vous dirai quelque chose sur Abdelkrim.
Est-ce que c'est enseigné au Maroc actuellement ? Est-ce qu'effectivement, l'histoire en partie a été aussi écrite donc par les Français sur le Maroc ?
Je vous dirai quelque chose. La localité où a vécu Abdelkrim Khattabi a été effacée de la carte du Maroc. 2. Mes enfants, lorsqu'ils étaient à l'école, ils lisaient quelque chose d'incroyable qui était totalement histoire, anachronique. C'était que Mohamed V a dirigé et a orienté la rébellion de 1926 de Abdelkrim Khattabi, alors qu'il n'était même pas encore ni sultan ni roi. L'histoire est réellement réécrite par les dominants. Et ceux qui sont dominés essaient de donner une autre interprétation à cette histoire. Mais Abdelkrim Khattabi, on a essayé de l'effacer totalement de la mémoire du pays. Totalement. Aujourd'hui, le mouvement Rifin, le mouvement essaie de le réinstaller, de le faire revivre dans l'histoire du pays.
Un petit bémol. Simplement, il n'y a pas un bouquin, pas un, sur l'histoire du Maroc qui ne raconte pas l'histoire d'Abdelkrim al-Khattabi. Il n'y en a pas un. Voilà. Donc quand même, il n'est pas effacé. Il est peut-être instrumentalisé. Il est peut-être mal interprété. Mais il n'est pas effacé de l'histoire du Maroc. Ça, c'est faux.
Non, le postulat devrait être qu'un historien se doit d'être objectif et factuel. Malheureusement, on s'aperçoit quand même qu'effectivement, comme l'ont souligné Annick et Mohamed, l'histoire aussi, elle est au service de ceux qui dominent. Et on le voit tellement bien quand il s'agit de femmes dans la littérature. Elles sont totalement invisibilisées. Alors on parle de Pierre et Marie Curie, mais on parle de Pierre et on ne parle pas de Marie Curie. Donc là, il y a vraiment un problème. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, où on ne peut pas dire l'histoire est. Non, l'histoire de non, mais c'est pas
là, il y a quelque chose. Nous avons, je crois que, justement, c'est comment écrire l'histoire. Nous avons parlé des récits et des romans. Il est évident que les femmes, vous avez pris un excellent exemple, que les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire et que l'histoire officielle, disons, c'est l'histoire du pouvoir. Or, le pouvoir, c'est l'histoire des hommes. Donc, effectivement, c'est ceci. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que je reprenais à mon compte la formule des psychanalystes « D'où parles-tu ?» Et on parle toujours de quelque part. Moi, l'objectivité absolue n'existe pas. Et l'histoire, si vous le permettez, ne sert pas simplement à dire tel jour il s'est passé ça, telle année il s'est passé ça, telle année. Non, l'histoire c'est aussi essayer d'expliquer qu'est-ce qui est advenu, pourquoi c'est advenu, quel est le contexte. Vous rendez compte que ce serait d'une pauvreté terrible si c'était simplement, ben voilà, en 814 avant Jésus-Christ, ce qui est faux d'ailleurs, Didon a fondé Carthage, par exemple, point barre. Bon, bien sûr que non. C'est comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les cités-états phéniciens ont eu le besoin de construire des échelles jusque ce qui s'appelait à l'époque les colonnes d'Hercule. L'histoire, c'est pour ça que moi je ne suis pas contre le récit. L'histoire est aussi un récit. Je suis contre le roman national. Le récit, c'est quelque chose de très important, à condition qu'il respecte un certain nombre de règles, de déontologie, et je dirais, l'objectivité, je n'y crois pas beaucoup. L'impartialité, j'y crois. Voilà. L'impartialité, je crois. C'est un devoir, l'impartialité, pour l'historien. Alors, certes, il y a des historiens très savants. Si je reprends les historiens de la colonisation, par exemple, vous avez une histoire savante, réelle. C'était pas des nuls. C'était pas des analphabètes. C'était des savants. Mais des savants qui utilisaient leur savoir pour telle et telle
cause.
Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas utiliser son savoir pour servir quelque chose. Mais, et donc, c'est ça, être impartial. Mais bien entendu, l'histoire, si elle se résumait à faire une liste de dates, bon, ça, il suffit de
d'avoir des gras de papier.
Voilà, mais ça sert à
Merci.
Rien. C'est
Merci,
quand même
Sophie. Merci, Sophie.
Interpréter, c'est important.
Merci Mohamed, merci Annick, merci à vous trois. Merci à la salle.